Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, nous reviendrons sur la semaine avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et puis dès 13h30, rendez-vous avec l'un de nos grands intellectuels. Sa voix vous est familière, chers auditeurs. Il est écrivain, génial lecteur, professeur au Collège de France où ses cours sont pris d'assaut. L'héritage de Philip Roth. Et si l'écrivain américain était le dernier des modernes, quelle relation entre esthétique, littérature et politique aussi? Rendez-vous dans quelques minutes avec Antoine Compagnon.
France Inter. Question politique, Ali Badou.
Le duel, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Ça va, vous étiez pour Liverpool hier soir, mais vous n'avez pas l'air trop déprimé, ça va?
Bah, le but de Gareth Bale est absolument extraordinaire, donc j'avoue que même moi je me suis levé.
Mais même vous?
Ouais, mais oui, parce que moi j'adore Liverpool, j'adore l'histoire de ce club, j'adore... l'histoire, ouais, je pensais que c'était possible de faire comme contre Milan il n'y a pas si longtemps où ils avaient remonté.
Et le patriotisme et Zinedine Zidane.
Mais je suis hyper heureux pour Zinedine Zidane. Donc moi, de toute façon, c'était un match sans enjeu. C'est-à-dire que j'allais être content, quel que soit le vainqueur. J'étais très lâche dans mon approche de ce match.
Mais c'est une très belle attitude malgré tout. On va pas débattre de football, mais on va démarrer avec la mobilisation d'hier un peu partout en France et de nombreux commentaires sur la marée humaine qui était promise au président de la République. Marée basse, titré TF1 sur son journal hier. Coefficient de marée faible, disait Édouard Philippe dans le journal du dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de l'expression du président de la République, Natacha?
Écoutez, déjà, une première chose qu'on peut peut-être noter sur ce comptage, en effet, la marée était-elle basse, la marée était-elle en reflux, il faut avouer qu'Emmanuel Macron a de la chance. Il en a beaucoup.
De la chance, mais,
oui. Pour une raison, c'est que son arrivée à l'Élysée correspond avec une nouvelle méthode de comptage des manifestations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des médias indépendants qui comptent. Avant, quand il y avait un mouvement social, on prenait le chiffre de la préfecture de police, on prenait le chiffre des organisateurs et on se disait, bon, grosso modo, c'est entre les deux. Là, le comptage des médias est souvent très très proche de celui de la préfecture de police. Donc on peut considérer que c'est le vrai chiffre. Mais du coup, mécaniquement, le mouvement social a l'air moins fort qu'il ne l'était avant cette méthode de comptage. C'est quand même tout bénéfice pour Emmanuel Macron qui a l'air d'affronter un mouvement social totalement affadi, alors que malgré tout, il y a une colère sociale dans le pays.
Raphaël?
Oui, il y a une colère sociale dans le pays, mais ce qui est inquiétant, ou ce qui interpelle en tout cas, ce qui donne à réfléchir, c'est qu'en fait, il mène, Emmanuel Macron, une série de réformes extrêmement rapidement, et que les colères grandissent, mais les manifestations ne grandissent pas. Et qu'il n'y a pas cette convergence des luttes qui est recherchée.
Et comment l'expliquez-vous?
Eh bien, moi je pense qu'il y a, un, la stratégie d'Emmanuel Macron, et le fait qu'il est, en tout cas en tant que stratège, extrêmement intelligent, la multiplication des réformes et l'apparence de leur inéluctabilité démobilise. Contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Démobilise.
Ouais, démobilise, c'est-à-dire que les gens se sentent impuissants et observent. La deuxième raison, c'est quand même l'idée que, eh bien, si on va manifester, on manifeste à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il y a, en France, il y a, je suis sûr, une colère qui monte. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui même parmi les électeurs de Macron au premier tour, sont choqués par certaines des réformes, mais qui ont l'impression, s'ils descendent dans la rue, qu'ils viennent apporter un blanc-seing à quelqu'un auquel ils n'adhèrent pas par ailleurs. Et donc il y a...
Même s'il y avait plusieurs organisations de gauche hier dans la rue,
sûr,
que
regardez,
les syndicats étaient avec les politiques pour la première fois, la CGT...
Ce qui est fascinant, c'est qu'hier, les syndicats ont rejoint, la CGT en tout cas, et d'autres. Il y avait aussi Benoît Hamon et d'autres mouvements. Mais un, c'est perçu comme le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, et surtout, avec tous ces syndicats et tous ces mouvements, il n'y a pas plus de monde qu'à la fête de Ruffin, à laquelle Ruffin appelait quasiment seul. Et donc, ça ne grandit pas, le nombre d'organisations ne change rien, et en fait, c'est comme si on restait toujours au même nombre.
Natacha, comment expliquez-vous aussi que c'est le fatalisme était l'explication, pour le dire rapidement, de Raphaël, votre explication?
Alors, le fatalisme de fait, un fatalisme qui est lié au fait que la dérégulation par on va dire l'idéologie néolibérale, ça fait quand même 40 ans qu'elle s'impose petit à petit et qu'elle remporte petit à petit des luttes. Et en effet, il y a cette impression, mais qui est une impression extrêmement dangereuse, qui est en train petit à petit de s'imposer, c'est que, après tout, la démocratie n'a pas permis d'empêcher cette dérégulation. Or, si cette impression-là devait se concrétiser dans la tête des citoyens, alors nous ne savons pas du tout ce qui pourrait en sortir. Le deuxième point...
Mais ceux qui étaient dans la rue hier n'étaient pas résignés.
Alors non, ils n'étaient pas résignés, mais justement, ils n'étaient pas très nombreux, et c'est ce que tout le monde a pu observer. Et en effet, ils y sont allés avec cette ambiguïté qui consiste à savoir pourquoi ils sont descendus dans la rue, et à l'appel de qui, et avec quel espoir politique.
Oui. Donc,
par exemple, on a vu que la CGT avait accepté, ce qui est tout de même quelque chose d'extrêmement nouveau. La CGT a accepté de défiler auprès d'un parti politique. On sait très bien le chiffre, 51% des militants de la CGT ont voté Mélenchon à la dernière présidentielle. Donc évidemment qu'il y a une convergence idéologique, même si ce n'est que 51%. Alors on ne sait pas si les autres ont voté Poutou, Nathalie Arthaud, peu importe, ou Benoît Hamon. Mais ça n'est que 51% pour Jean-Luc Mélenchon dans un mouvement où pourtant il y a des convergences idéologiques majeures.
Oui.
Ce qui prouve en effet qu'une bonne partie des gens qui aspirent à un changement social ne se reconnaissent pas dans la façon dont Jean-Luc Mélenchon traduit cela. Et en fait, le problème est là. À un moment donné, en démocratie, on a besoin d'une incarnation politique.
Raphaël.
On a besoin de quelqu'un qui va offrir quelque chose qui puisse se passer dans les urnes. C'est tout le problème.
C'est le problème. Et je pense que ça explique aussi la résistance de la cote de popularité d'Emmanuel Macron, y compris...
Elle s'effrite aujourd'hui,
oui,
dans le dernier baromètre.
Elle s'effrite, mais il reste beaucoup plus haut que ses prédécesseurs. Et elle s'effrite à une vitesse lente, en particulier chez les électeurs sociodémocrates, alors qu'il mène une politique... et il mène des réformes et il a un style politique d'exercice du pouvoir qui devrait les choquer. Mais ce qui explique cela, c'est en grande partie, en effet, le fait que les gens regardent le spectre politique et disent « Oui, mais quoi d'autre ?» Quoi d'autre que Macron ?
Et c'est une impression... Autrement dit, entre Macron et Mélenchon, il n'y a rien.
Mais justement, en fait, entre Macron et Mélenchon, il y a des millions de Français... Mais il n'y a aucune expression politique qui fonctionne. Il y a des millions de gens qui se sentent orphelins, qui sont pour une critique des réformes libérales, pour une critique de l'exercice autoritaire du pouvoir, mais qui ne voient rien émerger qui puisse leur donner une confiance ou leur donner l'impression d'un choix différent.
Alors il y a aussi les optimistes, et plutôt que de voir le verre à moitié vide, ceux qui l'ont vu à moitié plein, et au-delà des questions de chiffres, Benoît Hamon par exemple, qui était dans le cortège à Paris hier avec son mouvement Génération, disait que c'était enfin le moment où l'on voyait les gauches françaises réunies. Est-ce que vous partagez son diagnostic, Natacha ?
Alors, je pense que, justement, l'idée qu'il n'y aurait que à gauche, qu'il y aurait un refus du néolibéralisme imposé par Emmanuel Macron, est une erreur de perspective qui facilite la tâche à Emmanuel Macron. Parce que je pense que de l'autre côté du spectre politique, c'est-à-dire chez des gens qui peuvent se reconnaître dans la droite ou même dans l'extrême droite, ou en tout cas qui sont allés voter parfois le Front National, et d'ailleurs peut-être même y a-t-il des militants CGT qui ont voté Front National, on en connaît quelques-uns. Donc parmi tous ces gens-là, il y a un refus, en tout cas de ce modèle économique. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en Italie. Tout ça, les deux bouts du spectre peuvent se rejoindre. Sauf que, politiquement, en France, ça ne marche pas. Et qu'on voit, en effet, ce rêve, notamment à travers la phrase de Benoît Hamon, de reconstituer une force de gauche contre Emmanuel Macron. Je pense, pour ma part, que c'est une erreur. Je pense qu'il faut faire l'alliance de tous ceux qui refusent ce système économique et qu'ils se retrouvent sur une base minimale, parce que sinon, justement, ce néolibéralisme peut avancer,
Raphaël,
en fracturant tous ceux
qui ne se reconnaissent pas en lui.
On a la
raison, en fait, de notre désaccord de fond. C'est-à-dire que moi, je pense au contraire que cela ne fonctionne pas. Précisément parce que pour les gens, c'est perçu comme une...
En Italie, ça a marché.
Non, mais cela ne fonctionne pas en France parce que c'est perçu comme une critique souverainiste d'Emmanuel Macron. Et qu'il y a une voix qui ne se fait absolument pas du tout entendre dans ce concert, c'est la voix d'une social-démocratie, des écologistes qui semblent complètement dépassés par ce débat entre Emmanuel Macron qui dit « Si vous voulez préserver le cadre de la démocratie libérale et de l'Union européenne, alors je suis votre seul secours, je suis votre seul recours. Et face à moi, il y aura une alliance des souverainistes que prône Natacha Polony. »
Moi, je pense que c'est... souverainiste et écologiste.
Bien sûr, on peut tout à fait, mais simplement... Il y a
la nécessité d'une
critique d'Emmanuel Macron, d'une proposition alternative au sein même des forces qui sont pour la construction européenne et qui sont pour la construction d'une démocratie européenne. Et c'est là où en fait il y a une sorte de cataclysme, c'est-à-dire une ruine totale des partis qui auraient pu incarner ça, les Verts, le PS, et que Génération n'arrive pas à incarner. Encore.
Mais Raphaël, on peut aussi, en un mot, être pour une Europe, mais une Europe indépendante, et croire que c'est par la souveraineté des peuples qu'on va arriver à cette Europe
si vous
qui existe politiquement.
Si vous voulez une Europe indépendante, il faut une Europe souveraine, il faut qu'elle ait des instruments politiques, il faut qu'il y ait une démocratie politique européenne, et ça, c'est les souverainistes qui bloquent de toute façon chaque avancée vers ça.
Non, c'est pas les souverainistes.
Sujet.
Non.
Et avancer, passer au prochain dossier, le duel continue.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Autre dossier important, cette semaine, le président de la République était à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine. Il était en direct sur BFM TV hier, vendredi soir.
Aussi vrai que je place la relation avec Donald Trump dans l'histoire d'alliance entre la France et les États-Unis au service de la liberté, aussi vrai je place la relation entre la France et la Russie dans son cadre historique. C'est ce que j'ai fait en l'accueillant à Versailles et en venant ici à Saint-Pétersbourg. C'est de dire nos deux pays, nos peuples, se sont toujours parlé, se sont aimés. Et ils se sont aimés par la culture, par l'intelligence. Ces histoires sont plus fortes que nous. Et ce que je veux dire par là, c'est que je place, moi, la relation avec Vladimir Poutine dans cette vision stratégique qui est que la Russie doit être arrimée à l'Europe. La Russie est européenne.
Commentaire, Raphaël Glucksmann.
Non, c'est très bien d'évoquer l'histoire longue, l'histoire qui façonne les relations entre les peuples, mais il y a aussi l'histoire récente qui est importante. Et moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois qu'on change de président de la République, que ce soit en France d'ailleurs ou n'importe où ailleurs en Occident, eh bien, on a le phénomène de la mémoire du poisson rouge. C'est-à-dire qu'on nous parle de la grande histoire de l'amitié entre les peuples, mais on ne se souvient pas qu'il y a une histoire qui a 20 ans, par exemple, et qui est celle de Vladimir Poutine au pouvoir. Or, ce qui était marquant dans la conférence de presse entre les deux, et ensuite, d'ailleurs, dans l'interview entre Macron que Macron a donné à la télévision française, c'est que il y a au même moment une enquête internationale qui explique dans le détail que l'armée russe, parce que ça ne pouvait être que l'armée russe et c'est prouvé, a descendu un avion de ligne avec 300 victimes, près de 300 victimes, dont une immense partie de citoyens européens hollandais. Et la Hollande fait partie avec nous d'un ensemble de solidarité qui est appelé à toujours plus se creuser et se construire. Et tout d'un coup, on passe ça mais par-dessus bord sans aucun problème. C'est-à-dire que Poutine fait une blague en disant « Mais de quel avion vous me parlez ?» Et Emmanuel Macron ne relève même pas. Et donc on est là dans l'exaltation d'un temps long, mais ça fait quand même 20 ans que cet homme a le pouvoir et 20 ans qu'il est hostile, profondément hostile aux principes et aux intérêts de l'Union européenne. Il y a la Tchétchénie, la Géorgie, l'invasion de la Géorgie, l'invasion de l'Ukraine, la Syrie, le soutien à tous les mouvements d'extrême droite en Europe. Donc à un moment, il faudra quand même se demander. Je veux bien que tout le monde veuille absolument en faire son ami, mais peut-être lui ne le veut-il pas.
Natacha.
Alors, je sais, puisqu'on a peu de temps pour répondre, simplement, il faut regarder en effet sur les 20 dernières années, le positionnement de Vladimir Poutine n'a pas toujours été le même. Et on pourrait refaire l'histoire des conflits au sein de l'Europe de l'Est, mais simplement, je pense que là, ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, c'est tout simplement de rattraper Vladimir Poutine, qui est en train petit à petit de se tourner vers la Chine. Il est en train de se tourner vers la Chine, de construire une alliance avec la Chine et de se détourner de l'Europe parce qu'il la considère comme inféodée aux États-Unis. Si on veut empêcher un conflit, si on veut ramener Vladimir Poutine vers une attitude géopolitique acceptable et qui ne s'asseye pas totalement sur le droit international et sur les droits de l'homme, il faut petit à petit, reconstruire des liens. Et c'est ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron, notamment sur la question syrienne, en essayant de faire converger le processus d'Astana, donc instauré par la Russie, la Turquie et l'Iran, et le processus qui est au cœur du projet, notamment français. Donc il y a eu une tentative d'essayer petit à petit de ne pas reconstruire une guerre froide, ce qui est profondément dangereux pour l'équilibre du monde.
Vladimir Poutine n'est pas en réaction à une politique européenne. Vladimir Poutine a son propre agenda idéologique. Ça fait 20
qui
ans.
Qui était préservé des pays tampons près de chez lui. Voilà, mais c'est tout.
Oui, bien sûr. Alors, c'est de préserver des pays tampons près de chez lui. C'est d'envahir ses voisins. C'est de les démembrer.
Il voulait juste des pays tampons. L'OTAN a petit à petit grignoté sur cet espace.
C'est pas l'OTAN qui a envahi les pays voisins de la Russie. C'est la Russie qui a envoyé ses troupes en Ukraine et en Géorgie. Et de toute façon, c'est le choix souverain des Ukrainiens. C'est aux Ukrainiens de décider ça. C'est quoi cette logique où on accepterait que Vladimir Poutine décide à la place des Ukrainiens? S'ils veulent rentrer dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, c'est leur problème.
C'était pas exactement comme ça.
Mais si, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ils ont fait une révolution. Mais, Natacha, vous pouvez me dire non, Raphaël, mais le fait est qu'une majorité écrasante des Ukrainiens. Vote pour des partis qui sont pour l'Union européenne. On va pas leur demander de voter pour des partis pro-russes.
Mais surtout,
en quoi soutenir l'ensemble des extrêmes droites européennes, garantit une zone tampon à Vladimir Poutine? Non, il est hostile au projet d'union supranationale qui s'appelle l'Union européenne à ses frontières parce qu'il le voit comme une menace existentielle à son régime. Et donc, il y a un moment, il va falloir engager, sans faire de guerre, un rapport de force, sans penser qu'il est simplement en réaction. C'est un acteur adulte, Vladimir Poutine.
Un rapport de force, ça n'est pas de revenir dans une guerre froide où nous serions totalement inféodés aux intérêts américains.
Donald Trump a été élu avec Vladimir Poutine.
On va devoir en rester là, les amis. C'était intéressant et on aura l'occasion de reprendre cette discussion, d'entendre le président de la République dire qu'il ne menait pas une diplomatie des états d'âme. Et c'était intéressant de savoir ce que recouvrait cette expression. Est-ce qu'il s'agissait d'une diplomatie des droits de l'homme? Est-ce que c'était le signe que sa diplomatie était une politique, une réelle politique en matière étrangère? Nous aurons l'occasion de reprendre le débat.